conseil. L'étude de ce soir, je rappelle ces feuilles sont... Je rappelle que ces feuilles sont là pour que vous puissiez suivre et aussi dans la possibilité de refaire l'étude chez vous. C'est la trame de ce qu'on va dire ce soir. Donc c'est une espèce d'aide-mémoire. Alors, juste pour faire quelques rappels, et en particulier pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. La dernière fois, on avait d'abord recommencé, expliqué cette phrase qui revient souvent dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Marc, quand les évangélistes disent les Juifs. Alors, j'ai expliqué la dernière fois que ça n'avait aucune connotation antisémite et qu'il s'agit essentiellement des chefs religieux. Voilà, on avait commencé par ça et après on a vu quelques échanges entre Jésus et justement les chefs religieux. Et ces chefs religieux-là ont poussé Jésus, poussent Jésus dans ses derniers retranchements. Nous avons dit qu'on était dans la dernière semaine qui est appelée la Passion. Dimanche, c'était l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Le lundi, Jésus maudit le figuier stérile. Mardi et mercredi, l'autorité de Jésus est contestée par les chefs religieux. Jésus commence à leur parler en parabole. Il y en a 6 et Marc n'en rapporte qu'une, la parabole des mauvais vignerons. Et que les Hérodiens et les Pharisiens ont tendu aussi un piège terrible pour piéger Jésus à propos de l'impôt qui est dû à César. Devant nous, oui ou non, payer l'impôt à César. Et Jésus a su déjouer leur complot. Parce qu'il a retourné la situation contre eux. Et finalement, tout s'est déroulé vraiment de manière magistrale. Et après cela, donc de manière crescendo, les responsables religieux envoyaient des missiles, entre guillemets, contre Jésus. Et les unes après les autres, Jésus a déjoué tous les pièges dans lesquels les chefs religieux voulaient l'enfermer, parce que leur but, c'est de trouver un motif pour accuser Jésus. Et un motif suffisamment grave qui mérite la peine de mort. Comme par exemple, dans la loi de Moïse, il est prévu que dans certaines circonstances, la personne pouvait encourir la peine de mort s'il désobéissait à certaines lois de Moïse. Donc on le pousse en le derrière. Et là nous sommes aujourd'hui, nous allons voir. D'abord, donc j'ai dit qu'il y a eu les responsables religieux d'une manière générale. Ensuite, il y a eu les pharisiens et les hérodiens pour l'impôt dû à César. Et en dernier lieu, c'est les sadducéens qui lui ont raconté une histoire à dormir debout. Et qui, le Seigneur a dit, mes pauvres amis, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que quand les hommes meurent et qu'ils vont au ciel, dans l'au-delà, il n'y a pas de mariage dans l'au-delà. Il n'y a pas du tout de mariage. Les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas d'hommes. Ils vivront comme les anges. Et donc, à propos de la résurrection, vous n'avez jamais lu, et là, c'est vraiment quelque chose à laquelle personne ne pensait, sauf le Seigneur. Il va citer un texte du Pentateuque, quand Moïse se retrouve dans le buisson ardent, et que Dieu lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et sur ce temps de verbe, « Je suis », Dieu démontre que il n'est pas simplement, il n'est pas le Dieu de personnes qui sont décédées parce qu'il aurait dit, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob. Non, je suis. En d'autres termes, les personnes dont nous sommes en train de parler sont là à côté de moi. Moïse, tu les vois peut-être pas, mais ils sont là. Ils sont là parce que je continue à être leur Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, là, par une simple phrase, Jésus démontre qu'il y a une vie après la mort et que la résurrection, c'est quelque chose qui existe bel et bien, c'est biblique. Et donc, alors là, tout le monde a été réduit au silence et nous allons voir un épisode où il y a un scribe qui a assisté à toute cette discussion. Alors, quand il y avait cette discussion-là, Jésus était devant une grande foule. Hein, et là, en l'occurrence, c'est dans le temple. Il est devant une foule assez conséquente. Et dans cette foule-là, il y a beaucoup de responsables religieux, dont notamment les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les scribes, etc., etc. Et là, il y a un scribe qui a assisté à toute cette discussion et qui est fortement étonné de la manière dont Jésus a répondu, a réduit au silence tout le monde. Et il fait une démarche assez singulière auprès de Jésus. Et on va voir en quoi cette démarche est-elle vraiment singulière. Il s'agit de ce qu'on appelle le plus grand commandement. Donc nous allons prendre Marc au chapitre 12 et nous allons lire ce que le scribe a fait comme démarche. Marc 12, versets 28 à 34. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc 12, versets 28 à 34?
Un des spécialistes de la loi, scribe, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi, donc le scribe, lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions.
Voilà. Le scribe, qui est-il? Son nom ne nous est pas révélé. Le texte nous dit simplement un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux sadducéens, s'approcha. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un scribe? Ça vient du latin grammateus. Ça nous rappelle un peu ce que, en français, le mot grammairien ou grammaire, qui veut dire tout simplement ici clerc ou secrétaire. Les scribes étaient des hommes instruits dans les écritures sacrées et qui enseignaient la loi au peuple. Ils recopiaient la loi et ils examinaient surtout les questions les plus difficiles qui était posé à la loi. Alors voici une image, par exemple. Voilà. Cette belle image. Alors, je vais... Voilà. Voilà. Belle image, hein, n'est-ce pas? Voilà un scribe au travail qui a donc la loi et qui est en train de la recopier. Alors c'était un travail très minutieux. Vraiment, on peut bénir Dieu parce que la manière dont ils ont fait le travail, c'est exemplaire. Chaque mot, tout était compté, tout était vérifié minutieusement, et c'était des gens très instruits, les scribes. Voilà. Donc c'est un scribe qui s'approche de Jésus et qui lui pose une question. voilà une petite réunion entre les scribes et les pharisiens. Les pharisiens, les scribes qui sont en train de discuter. Et un des scribes s'approche de Jésus, fortement impressionné par la manière dont le Seigneur avait brillamment répondu aux Sadducéens. Il lui demande, mais Seigneur, maître, quel est le plus grand commandement? C'est vraiment bizarre qu'un scribe demande à Jésus, quel est le plus grand commandement? Alors, on pourrait se poser la question, mais est-ce que ce scribe-là n'est pas en train de, comment dire, de ce qu'on appelle pêcher le faux pour savoir le vrai? Est-ce qu'il est honnête? Parce que, en fin de compte, la discussion à laquelle il a assisté, notamment la discussion des Sadducéens, portait sur l'existence de la vie après la mort. Donc, ça n'a rien à voir avec la question qu'il pose à Jésus. Alors, pourquoi pose-t-il cette question? Il connaît pourtant la réponse. Est-ce qu'il est animé de mauvaises intentions? Est-ce qu'il cherche à piéger le Seigneur? Est-ce qu'il est honnête dans sa démarche? Alors, pour répondre à cette question, il faut examiner le contexte et comprendre la raison pour laquelle ce scribe vient poser la question à Jésus. En réalité, un détail important nous manque dans l'évangile de Marc. Et ce détail important, le voici. Voilà ce qui nous manque. En réalité, les pharisiens et les scribes s'étaient réunis. Vu que Jésus avait déjoué tous les pièges, ils ont dit, on va essayer de le coincer sur un élément, sur la loi. On va lui poser une question sur la loi pour savoir qu'est-ce qu'il pense de la loi. Est-ce qu'il peut résumer la loi? On va essayer de connaître sa théologie. Le plus important de ce qu'il pense. Et si sa théologie n'est pas orthodoxe, bingo. Il est cuit. On va effectivement, selon la loi de Moïse, si vraiment il dénature la loi, il est passible de la peine de mort. Donc ils se sont réunis et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire, pharisiens et scribes? Et c'est Matthieu qui nous répond, qui répond à la question. En fait, le détail se trouve dans Matthieu. Si on va dans Matthieu 22, 34 à 36, là, nous trouvons le détail. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 22, 34 à 36?
Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?»
Voilà. Ils se rassemblèrent et ils ont envoyé en fait un porte-parole pour aller vers Jésus pour en fait lui demander ce qu'ils avaient discuté entre eux. Lui n'est que le porte-parole en réalité. Il pose cette question pour l'éprouver. Alors le mot grec traduit par éprouver, c'est petirazo, qui signifie tenter. Et c'est exactement le même mot qui se trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 3. Est-ce qu'on peut lire Matthieu chapitre 4, verset 3? Matthieu, chapitre 4, verset 3.
Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Voilà, le tentateur. C'est exactement le même mot, tentateur. Donc, en fait, la question n'est pas si innocente que ça. Ils veulent tenter Jésus. Il s'agit donc d'un complot contre le Seigneur. Les intentions des pharisiens et des scribes étaient donc mauvaises. Mais le Seigneur connaît les cœurs, notamment le cœur de ce porte-parole, et on va voir que lui, personnellement, il est sincère. Certes, il est le porte-parole d'un groupe plus ou moins, contre le Seigneur, mais lui-même, au fond de lui-même, il n'est que le porte-parole et il est lui-même sincère. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous analysons vraiment minutieusement le chapitre 12 de l'évangile de Marc, on va se rendre compte qu'ici, il y a quelque chose de très important qui manque et qui apparaît dans tous les autres textes qui précèdent ce passage. Prenez par exemple Marc chapitre 11, verset 29. Marc 11, 29.
Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. »
Voilà, donc là, il est en face des responsables religieux, et qui lui demande, « Mais par quelle autorité tu fais ces choses ?» Et Jésus, comment répond-il? « Je vous adresserai aussi une question. » On sent bien qu'il y a une confrontation. Prenez aussi Marc, chapitre 12, verset 10.
N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qu'on construisait est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux.
N'avez-vous pas lu? Là donc, il y a aussi une question. Et on sent le temps du Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui... C'est une vraie confrontation qui est là. Ensuite, Marc 12, 15.
Et lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le voie. »
Pourquoi me tentez-vous? On sent encore quelque chose qui est une confrontation. Ensuite, prenez Marc 12, 24.
Jésus leur dit, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. »
N'êtes-vous pas dans l'erreur? Donc, vous voyez comment le Seigneur aussi réagit. Là, donc, aussi, un temps, de face à face. Comme deux boxeurs qui sont face à face. Mais ici, le Seigneur ne pose aucune question aux scribes. Aucune. Au contraire, il le reçoit avec une bienveillance qui n'apparaît pas dans les autres textes. Et ceci nous montre que Dieu ne fait pas du copier-coller. Ce n'est pas parce qu'il a réagi d'une certaine manière à tous ceux qui sont venus le voir qu'il va réagir de la même manière à ce scribe. Parce que tous ceux qui sont venus le voir, Jésus connaissait leur cœur individuellement. Alors ici, Jésus voit bien dans le cœur de ce scribe, individuellement. Et il voit que ce scribe, il est honnête. Et donc, il le reçoit d'une autre manière. Et ça nous encourage, frère et sœur. Dieu ne fait pas du copier-coller. Nous aussi, évitons de faire du copier-coller, c'est-à-dire de reproduire le même schéma devant la même situation, quels que soient les individus. Non. Chaque situation est un cas particulier, même s'il s'agit de la même chose, en fait. Mais chaque personne est différente. Donc, ici, le Seigneur nous donne la leçon. Attention, ne faisons pas du copier-coller. D'ailleurs, il est dit dans Romains 14, 12, hein, si quelqu'un peut lire Romains 14, 12.
Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
Voilà. Personne ne pourra dire, « Ah, mais vous savez, moi, je n'étais qu'un porte-parole. Les gens étaient méchants, mais que voulez-vous? Je n'allais pas dire le contraire de ce qu'il m'a demandé de vous dire. » Non. Certes, mais... Tu es pas un monsieur lambda quelconque. tu as aussi ton mot à dire là-dedans. Et tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Tu ne pourras pas te baser sur ça pour accuser les autres et dire « Moi, je suis complètement innocent, je ne fais qu'appliquer ce que les autres m'ont dit. » Non. Toi aussi, toi, ton mot à dire. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc notre scribe, qui est docteur de la loi, et qui est le porte-parole d'un rassemblement de pharisiens et de scribes, et dans ce rassemblement, qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Ben, il faut savoir d'abord que les scribes et les pharisiens, les scribes et les rabbins, disaient qu'il existe 613 commandements dans le Pentateuque. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Il y a 613 commandements dans le Pentateuque. Et qu'ils ont réparti en deux groupes. Les importants et les moins importants. Mais évidemment, tous n'étaient pas d'accord pour mettre tel ou tel commandement dans tel ou tel groupe. D'où des écoles rabbiniques, où chaque rabbin interprétait plus ou moins à sa manière les lois de Moïse. Et donc, les pharisiens voulaient quelque part savoir si Jésus, lui aussi, avait développé sa propre théorie. Et quelle était-elle? Que pensait Jésus du Pentateuque? Est-ce qu'il avait une école où il avait lui aussi, il enseignait sa propre théorie? Ah, qu'est-ce qu'il devait enseigner dans cette école-là? Est-ce que c'était vraiment orthodoxe? Si ce n'est pas orthodoxe, c'est terminé. On coince Jésus parce qu'on a un motif de le coincer. Et donc, ils envoient ce malheureux rabbin demander, poser la question à Jésus. Voilà le piège des pharisiens. Surprendre Jésus dans cette prise de position vis-à-vis de la loi. Mais Jésus reçoit ce scribe. Il commence d'abord et il ne botte pas en touche hein, par rapport à la question qui lui a été posée. En fait, il répond exactement d'une manière magistrale en citant quelque chose de très important chez les Juifs qui s'appelle le schéma. C'est un mot hébreu qui signifie « écoute ». Là, nous sommes devant le fondement de la foi d'un juif. Ce schéma, c'est ce que Jésus va citer, qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 5. Est-ce que quelqu'un peut lire Deutéronome 6, 4 à 5?
Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.
La profession, le credo juif, la profession de foi, de foi d'un juif authentique, repose sur le schéma complet. Quel est-il? Il y a ce qu'on vient de lire, Deutéronome 6, 4, 5, auquel il faut rajouter Nombre 15, versets 37 à 41, et Deutéronome 11, versets 13 à 21. Donc, Deutéronome 6, 4 à 5, Nombre 15, 17 à 41, Deutéronome 11, 13 à 21, c'est le socle du judaïsme. Tout juif devait connaître par cœur ces passages que nous venons d'énumérer. Et il devait non seulement les connaître par cœur, mais il devait les réciter deux fois au moins par jour, matin et soir. Mais non seulement ça, il devait l'écrire sur ce qu'on appelle des parchemins, ou plutôt des phylactères, qu'ils entouraient autour des bras, qu'ils mettaient sur le front, qu'il clouait sur les portes des maisons pour respecter à la lettre ce que dit Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, Parce que si nous lisons la suite de Deutéronome 6, 4 à 5, est-ce que quelqu'un peut lire les versets 6 à 9 de Deutéronome 6?
Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes.
Voilà, et exactement et de manière littérale, chaque juif pieux devait... Voilà. Mais sur la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Hein? Il y a peut-être quelques-uns qui ont déjà vu ça. Hein? Voilà. Donc, tout, dans ces lanières-là est écrit le schéma complet. Donc, tous les textes que nous venons de citer tout à l'heure. Et dans la petite boîte aussi, que vous voyez, par exemple, ici, là. Vous le voyez?
Oui.
Voilà, donc là, et on le mettait aussi sur le front, et on le clôt aussi au-dessus des portes. Voilà. Donc, tout ceci, Jésus va citer pile poil la confession de foi d'un juif pieux. Alors là, évidemment, le scribe, il est dans l'admiration parce qu'il a répondu exactement à ce qu'il attendait. Et voyons la bonne foi de ce scribe, Jésus va l'amener plus loin que les textes que nous venons de citer. Parce que ce texte que nous venons de citer, notamment de Deutéronome 6, 4 à 5, nous parle d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, et c'est le plus grand commandement. Aimer Dieu beaucoup plus que n'importe quoi, que nos vies, que notre famille, que tout, c'est aimer Dieu en numéro un. Mais il va l'amener plus loin dans un texte tout aussi important qui se trouve dans le Lévitique. Est-ce que quelqu'un peut lire Lévitique, chapitre 19, verset 18? Lévitique 19, 18.
Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va dire, c'est le complément du schéma. Il y a le principal et son complément. Et les deux vont ensemble. Dieu nous ordonne de l'aimer plus que nous-mêmes et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La véritable piété est celle qui se préoccupe d'abord de Dieu, ensuite des autres. Les choses matérielles n'entrent pas en ligne de compte. Ce qui importe, c'est Dieu et nos semblables. Et c'est pour cela que vous avez aussi ce commandement dans la première lettre de Jean, où il y a toute une série de versets qui nous montrent que aimer Dieu, c'est vraiment la chose la plus importante qui existe. Mais comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère que nous voyons? Il y a une contradiction là. L'un doit être la conséquence de l'autre. Si j'aime vraiment Dieu comme je le prétends, je dois aimer mon frère. Et dans le texte que nous venons de lire de Deutéronome, de Lévitique, pardon, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. En d'autres termes, je veille sur le commandement que je te donne. C'est tout aussi important que d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme Et ce n'est, je dirais, l'apôtre Jean le dit, c'est même la conséquence, la démonstration matérialisée de mon amour pour Dieu. Si je n'aime pas le frère, la sœur, je ne peux pas prétendre aimer Dieu. Voilà. Donc, ici, nous sommes devant quelque chose de très important. Alors, évidemment, notre scribe l'a tout de suite reconnu. Et dans une formule abrégée, il dit « Oui, aimer Dieu et son prochain a beaucoup plus de valeur que tous les rites réunis. » Vous vous rendez compte, venant de la bouche d'un scribe, d'un pharisien, d'un docteur de la loi, il dit textuellement que les rites viennent bien après notre amour véritable pour Dieu. Alors qu'il est question d'hypocrisie parmi les chefs religieux. Donc là, il est en train de dénoncer lui-même l'hypocrisie des chefs religieux. Et nous voyons par exemple dans 1 Samuel 15, est-ce que quelqu'un peut lire 1 Samuel 15, 22, où ceci est précisé encore plus. 1 Samuel 15, 22.
Le Seigneur prend aussi d'autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices et à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur. Écoutez vaut mieux que les sacrifices et faites attention, vaut mieux que la graisse et les béliers.
Oui. Voilà ce que dit ce texte et voilà ce que approuve notre scribe. Pourquoi ? Mais parce qu'il savait que les gens pouvaient participer aux cérémonies religieuses, adopter une piété de façade sans avoir une sainteté, sans que cela corresponde à une sainteté interne. Tout ça, c'est possible. Quelqu'un peut dire, Seigneur, Seigneur, mais je t'aime, oh, regarde comment je chante pour toi, alléluia, gloire à Dieu, et tout ça. Mais qu'au fond, quand on fouille bien, il n'y a plus personne. C'est quand même incroyable, quand on y pense. Alors, frères et sœurs, en guise de mise en pratique, est-ce que nous pratiquons le plus grand commandement, aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, etc. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Sommes-nous capables? Je pense que non. Mais est-ce que nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes le test que nous propose l'apôtre Jean? Regardez dans 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. Quelqu'un peut lire ce texte-là, très important, 1 Jean 4, 20 à 21.
Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Amen. Mais vraiment, on ne peut pas être plus clair que ça. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais attends, tu ne peux pas aller plus loin quand même. Arrête-toi et réfléchis. Est-ce que, et de quelle manière, et comment ça se voit, est-ce que j'aime mon frère, ma soeur? Jusqu'où ça peut aller? Et je vous encourage fortement à lire la suite aussi de ce passage de 1 Jean, la suite, hein, parce que c'est très important de vraiment se remettre en question devant Dieu et nous regarder devant Dieu, avec le miroir de Dieu, nous regarder si nous aimons Dieu. Et si nous aimons Dieu, le test est très très simple, est-ce que nous aimons les frères et sœurs, et jusqu'à quel point? Alors, Jésus va vraiment être aussi en admiration. Vu qu'il a, ce scribe a répondu de manière intelligente, Jésus dit au scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc, on voit bien que cet homme, vraiment, malgré le fait qu'il était le porte-parole, il était quand même sincère avec un cœur sincère. Mais jusqu'où peut aller la sincérité d'un cœur? Et c'est ça que Jésus va lui révéler. Jusqu'où va ta sincérité? Je vais te montrer jusqu'où il doit aller. Jusqu'où ta sincérité doit aller. Ta sincérité doit aller jusqu'à reconnaître quelque chose de très important. Parce qu'au fond, toute cette loi de Moïse, pourquoi elle est faite? Elle est là pour que nous soyons justifiés devant Dieu. Bon, plus tard, il apprendra que nul ne peut être justifié par la loi. Mais bon, ça c'est beaucoup plus tard. Mais disons que là, il lui montre que bon, tu veux obéir à tous les commandements de Dieu et au plus important, je vais te montrer ce qui est le plus important. Qui est le Messie d'après toi? Qui est le Messie? Et c'est la tirade que nous allons lire dans Marc 12, 35 à 37. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc 12, 35 à 37?
Jésus continuant à enseigner dans le temple dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir.
Voilà. Les rabbins et les scribes avaient toujours enseigné que le Messie serait un descendant de David. Vrai ou faux? Vrai. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Parce que le plus important, c'est ce que Jésus va essayer de montrer à la foule. En leur citant, et c'est pour ça que vraiment c'est vraiment magistral la façon dont Jésus démontre, c'est vraiment, c'est presque mathématique, hein, la façon dont Jésus fait ses démonstrations. Il va dire la chose suivante. Prenez le psaume 110, verset 1. Voilà. Donc on se met à la place de la foule et on ouvre nos Bibles au psaume 110, verset 1. Alors, si quelqu'un a la version Darby, ça serait intéressant de lire dans la version Darby.
L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour ne marche plus de tes pieds.
Voilà, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marche-pied de tes pieds. Alors, vous remarquerez que le mot « Seigneur » qui est utilisé dans l'expression « mon Seigneur », l'Éternel dit « ah, mon Seigneur », c'est le mot « Adon » qui signifie « le Seigneur Dieu ». En fait, c'est Dieu qui s'adresse à Dieu. C'est le Père qui s'adresse au Fils. Et les rabbins connaissaient bien ce psaume. Ils savaient très bien que c'était un psaume messianique. Et Jésus va lui dire, mais si le Messie n'était que le fils de David, c'est-à-dire un homme, bien que fils de David, d'accord, mais un homme, si le Messie n'était qu'un homme, comment David peut s'adresser au Messie en l'appelant mon Seigneur, c'est-à-dire mon Dieu? C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc, il n'y a qu'une seule réponse évidente. C'est que le Messie, certes, il est fils de David, parce que c'est un homme, mais il est plus qu'un homme. Il est fils de Dieu, parce que David l'appelle mon Seigneur. Il est donc fils de Dieu. Le Messie est plus qu'un homme. Il est le Fils de Dieu. Alors là, les rabbins, les scribes, les pharisiens ont bien compris la démonstration de Jésus. Ils ont bien compris. Et ils savaient que ce psaume était messianique. Donc là, c'est d'une clarté limpide. Le Messie est aussi le Fils de Dieu. Donc, Jésus proclame ici que lui, le Messie, est fils de Dieu. Il proclame sa divinité. Alors, qu'en est-il pour nous? Est-ce que Jésus n'est qu'un simple homme historique, comme Vercingétorix, comme Jules César, etc., etc.? Est-ce que Jésus n'est qu'un personnage historique, certes, très important, puisque n'oublions pas que beaucoup de choses sont relatives à Jésus, notamment le calendrier, hein, on dit toujours 150 ans avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, etc. Vous avez remarqué que maintenant, les gens n'osent pas prononcer avant Jésus-Christ. Ils disent avant notre ère. C'est un peu plus subtil, hein, parce que ça évite de prononcer le mot Jésus-Christ.
C'est plus laïque.
C'est plus laïque, voilà. Mais est-ce que pour nous, ça se limite à ça? Est-ce que nous sommes comme ce rabbin, tout proche du royaume de Dieu? Mais être proche ne signifie pas que nous sommes entrés. Vous pouvez être proche d'une salle de réception et manquer le grand banquet. Ne pas participer au grand banquet, parce que vous n'êtes pas à l'intérieur. Est-ce que nous nous contentons de rester à l'extérieur du royaume de Dieu? Non. Entrons directement dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Bien sûr, les juifs, les scribes avaient compris de quoi ils parlaient. Mais comme d'habitude, au lieu de se repentir, voilà, ils viennent d'être mis le nez dans la vérité. Là, tout clair, tout limpide. Et que va-t-on faire? On va le tuer. C'est incroyable, quand même. Mais est-ce que ça peut aussi être notre attitude? Est-ce que parfois nous ne sommes pas devant le nez dans la vérité, dans la réalité? Et puis tourner la tête et dire, oh, on verra une autre fois. C'est aussi une leçon pour nous. Alors, Jésus est vraiment outré quelque part. Hein. Il va dire à la foule qui l'écoutait, gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous de leur levain, c'est-à-dire de la manière dont ils se comportent. En d'autres termes, vous avez vu l'hypocrisie des chefs religieux. En plein dans le mille, ils ont été confrontés à la vérité, ils reconnaissent la vérité et ils veulent me tuer. Donc Jésus va dire à la foule, gardez-vous du levain des pharisiens, le vernis religieux, qui aime à parader en robe longue, qui veulent qu'on fasse une distinction entre le bas peuple et eux, qui affiche une apparence de sainteté, qui aime à être salué dans les places publiques, qui aime qu'on leur doive tous les égards dus à leur rang. Ils recherchent les places d'honneur dans les synagogues. Et si par malheur quelqu'un occupe leur siège, ben, ils le font dégager presque manu militari. Ils affichent une sainteté extérieure. Regarde. Ils se promènent en robe longue. Ils sont séparés du reste du peuple. Ils se mettent à part. Ils ne sont pas comme les autres. Ils se réunissent dans la rue et les places publiques. Leurs prières sont un but d'eux-mêmes et souvent méprisantes. Là, vous reconnaissez la prière du pharisien et de celui qui n'osait même pas regarder au ciel. Ils font de longues prières pour être vus et admirés. Alors, frères et sœurs, voilà l'essentiel. Nous allons arriver à l'essentiel. vous avez reconnu les deux piécettes de la veuve. Les deux piécettes de la veuve. D'un côté, le contraste entre les pharisiens, chefs religieux, qui étaient radins, qui dévastaient les maisons des veuves et des orphelins, qui, faisaient tout pour être vus et pour être admirés. Notamment, en ce qui concerne l'offrande qu'on donnait à Dieu sur ce tronc, donc c'est une espèce de tronc où il y avait une fente et dans laquelle on mettait l'offrande qu'on donnait à Dieu. Eux, ils venaient avec des gros billets de banque, avec des pièces énormes comme ça, et ils les glissaient dans un fracas incroyable, juste pour qu'on puisse dire, « Oh, mais bravo, mais qu'est-ce que vous avez donné comme argent ?» Et là, tout de suite, Dieu ne se trompe pas, Jésus ne se trompe pas sur les hommes religieux. Et j'aime bien cette remarque d'un frère qui a fait remarquer, oui, mais en réalité, les Juifs sont comme nous, les chrétiens. Il y a des Juifs qui sont droits de cœur, qui sont religieux de cœur, mais il y en a aussi, comme nous, comme les chrétiens, qui ne sont pas droits de cœur, qui n'ont de chrétiens que le nom, que l'apparence extérieure, que la religiosité. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout faire l'amalgame. Et là, Jésus, lui, il ne fait pas d'amalgame, parce qu'il remarque bien ce que font ceux qui se disent religieux et ce que va faire notre petite vieille dame. Dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc 12, 41 à 44 ?
Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
Voilà. Voilà les deux petites pièces. Alors, je me suis amusé à faire un petit calcul. Parce que Marc donne vraiment des indications extrêmement précises. Il dit que ces deux petites pièces-là sont l'équivalent d'un quart de sou. Alors, je me suis mis à faire quelques petits calculs. Un quart de sou, ça veut dire 1 sur 60, c'est la 64e subdivision d'un denier. Et un denier, c'était le salaire journalier. Alors j'ai pris un ouvrier aujourd'hui qui travaillerait 12 heures.
12 heures.
Parce que 12 heures, oui. 12 heures, c'est un peu beaucoup. Mais à l'époque, c'était très courant. Qui travaillerait 12 heures.
Du matin au soir.
Oui, du matin au soir. Et qui gagnerait le SMIC. Il est à 9 et quelques, net, pas brut. 9 et quelques. Alors, je me suis mis à faire le calcul. Ces deux pièces, c'est l'équivalent d'un quadrant, c'est-à-dire un denier divisé par 64. Le salaire d'une journée divisé par 64. Voilà ce que ça donne. 9,52 le SMIC horaire fois 12 heures divisé par 64, ça fait presque 1,80 €.
Tu peux acheter une Bible.
Voilà ce qu'elle avait pour vivre. Par jour, ou peut-être même plus que peut-être par semaine, je ne sais pas, ce n'est pas précisé. Mais voilà ce que cette pauvre veuve avait pour vivre. 1,80 €. Sachant que le RSA, au jour d'aujourd'hui, est à peu près à 20 € par jour. Grosso modo. Cette dame, cette pauvre veuve, on était à 1,80€. Et tout, elle a donné aussi. Il ne lui restait plus rien. C'est ce que précise Marc. Tout ce qu'elle avait pour vivre. En d'autres termes, peut-être que ce soir-là, pour cette pauvre dame, ceinture. Rien à manger. Parce qu'elle a tout donné au Seigneur. Alors, bon, je ne voudrais pas culpabiliser, hein, mais nous, quand nous donnons au Seigneur, bon, alors frères et sœurs, soyez rassurés, parce que la parole de Dieu, et on le répète dimanche après dimanche, nous donne un principe fondamental pour nos libéralités. Ce principe, nous le trouvons, par exemple, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. On va y aller. 2 Corinthiens 8, 5. Et quelqu'un d'autre peut vous chercher 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 8, 5 d'abord.
Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu.
Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur. Voilà où, par où commence la véritable libéralité. Elle commence à se donner tout entier, soi-même, au Seigneur. Et de quelle manière devons-nous donner? Et c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 9, 7.
Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Voilà. Et ça, on le répète dimanche après dimanche. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, cette pauvre dame, certes, elle a donné tout ce qu'elle avait, mais elle a donné avec joie, sans contrainte, sans aucune espèce de regret. Donc, en fait, le plus important, c'est avec quelle qualité de cœur donnons-nous au Seigneur. En fait, ce n'est pas tant la quantité qui compte. Bon, elle est importante, hein, parce qu'il faut quand même bon, qu'on paye le pasteur, etc. Bon, quand même, c'est important.
Vous verrez dimanche prochain.
Oui, tu nous diras ça dimanche prochain, Odile. Mais c'est avant tout la qualité. Comment nous donnons au Seigneur. Cette pauvre a donné avec joie, sans contrainte, même si le soir, elle devait serrer la ceinture. Mais elle a donné avec joie. Donc voilà ce qui termine notre étude. Donc, pour résumer, vraiment, les pharisiens, les scribes à cette époque-là, nous, de nos jours, il n'y a rien de changé. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Quelqu'un qui veut le prendre, lui mettre le nez dans la vérité, ce n'est pas pour autant qu'il va croire en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Ce qui fait que nous-mêmes soyons vraiment à l'écoute du Seigneur et obéissons dès que le Seigneur nous montre la vérité. Ne soyons pas rebelles. Ne soyons pas hypocrites, n'essayons pas de faire comme si, mais obéissons aux lumières que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne au travers de sa parole. Donc voilà, un encouragement pour nous à continuer dans la vérité, à obéir à la vérité, à être vraiment au diapason avec le Seigneur, avec un cœur sincère, comme ce rabbin. C'est le scribe qui était certes envoyé par des gens plus ou moins mafieux, mais qui, au fond de lui-même, avait véritablement un cœur honnête. Et Jésus l'a reconnu comme tel. Jésus reconnaîtra les cœurs qui sont honnêtes. Donc on va s'arrêter là. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voudrait, mais juste rapidement, ajouter quelque chose.
J'ai une question.
Oui.
en quoi la question qui est posée par les scribes, alors qu'ils se sont tous rassemblés, était vraiment un piège, puisque la réponse la plus attendue est la plus simple, quelque part, la base. Quoi.
Oui. Mais est-ce que vous ne trouvez pas un peu bizarre que quelqu'un, il connaissait la réponse, bien évidemment, c'était un docteur de la loi, et chaque juif, matin et soir, doit répéter le credo. Pourquoi poser la question? Il n'y a pas un guise sur l'autre quelque part? En fait, c'est là où on s'aperçoit que c'est ce qu'on appelle prêcher le faux pour connaître le vrai. En fait, si vraiment Jésus avait donné une réponse qui n'était pas orthodoxe, ben là, c'était terminé pour lui. Hein. On testait, en fait, non seulement les connaissances bibliques de Jésus, mais ce qu'il enseignait à ses disciples. Qu'est-ce que Jésus enseignait à ses disciples? Et s'il enseignait quelque chose qui était contraire à la loi de Moïse, la loi de Moïse nous ordonne de tuer de telles personnes. Donc, c'était sujet à caution. Bon, c'est peut-être pas ça, mais il y a de fortes probabilités que leur question cachait un motif beaucoup plus sournois.
Et puis Matthieu le précise, Matthieu qui dit qu'ils ont envoyé ce scribe pour tenter Jésus.
Voilà, pour tenter, voilà. Donc la tentation, effectivement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. C'était diabolique.
Il y avait une mauvaise intention derrière.
Non, il y avait de mauvaises intentions. Mm. Sous des bonnes apparences.
C'est toujours comme ça.
Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose d'autre? Sinon, on va s'arrêter là. Et si quelqu'un peut prier pour terminer.
Seigneur, nous voulons te remercier pour la sagesse dont tu fais preuve, Seigneur, dans cette situation, face à toutes ces questions pièges, Seigneur. Nous sommes émerveillés de voir ta sagesse, ton discernement, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous étonne toujours par tes paroles, par ton enseignement. Et nous sommes émerveillés, Seigneur, de voir comment tu as tenu bon face à tous ces pièges, et comment tu as confondu tes accusateurs. Seigneur, nous te prions de nous donner de telle sagesse à nous aussi, un peu comme Étienne, qui avait une sagesse à laquelle les pharisiens ne pouvaient pas résister non plus. Ils étaient confondus. Eh bien, Seigneur, par ton esprit, donne-nous une telle sagesse, Seigneur, nous avons besoin pour répondre aux questions des gens, pour répondre par rapport parfois à l'actualité, par rapport au salut, par rapport à la Bible, Seigneur. Merci de l'enseignement de ce soir. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui as parlé à travers notre frère Jean. Et nous te prions maintenant de nous accompagner, de permettre que nous puissions, comme nous l'avons vu, aussi mettre en pratique, Seigneur, tous les enseignements qui ont été donnés. Et donne-nous un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur droit, Seigneur. Délivre-nous du masque de l'hypocrisie, Seigneur. Ne cherchons pas à donner une apparence, mais soyons transparents, Seigneur, à la lumière de ta parole et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Amen.